Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, animée par l'équipe des films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
When the grave of the devil is disturbed by the plow, the satanic essence of evil wreaks violent and revolting revenge.
But it weren't human, sir.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale fantastique et horreur, durant laquelle nous aborderons La Nuit des Maléfices de Pierce Haggard, qui est sorti chez Rimini, un film précurseur de la folk horror. On causera aussi de Intruder de Scott Spiegel, du directeur Scott de Cabal. Ça, c'est deux films qui sont sortis chez ESC. On reviendra sur Body Trash, un film de 93 de Philippe Brophy, qui est sorti chez Rimini. On parlera du tout mignon Babe le cochon dans la ville de George Mad Max Miller, un film de 98 sorti chez BQHL. Et puis enfin, on parlera de deux des dernières sorties de chez ESC, des rééditions de deux films qui ont marqué leur époque, le début des années 2000, May de Lucky McKee et Détour mortel de Rob Schmitt. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Timothée Tricard, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer fantastique et horreur, je suis aujourd'hui accompagné de mon équipe favorite. Tout d'abord, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, l'autre membre de mon équipe, évidemment le fameux Thomas Rolandi, le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour différents médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, et bonjour Damien, et bien évidemment bonjour à toutes.
Mon cher Thomas, toi qui aimes le cinéma britannique, tu es venu avec un petit Blu-ray édité par Rimini, à savoir La Nuit des Maléfices de Pierce Haggard, qui raconte quand même une histoire incroyable. Nous sommes en Angleterre, mon cher Thomas, au XVIIIe siècle, et là, dans un petit village, un jeune homme qui arrive avec sa fiancée dans sa famille. On se doute bien que la famille n'a pas trop envie qu'il se marie avec une roturière, ce jeune homme. Et mais il se trouve que la roturière va passer une sale nuit, hein, et puis elle va avoir des marques étranges sur le corps, tout ça. Et bon, il y aurait comme une histoire de culte païen dans ce village, et de culte même satanique, je pense qu'on peut le dire, mon cher Thomas.
Effectivement, le diable n'est pas loin, notamment avec un jeune homme qui, en labourant ses champs, découvre un étrange squelette qu'il pense être un squelette de démon. Enfin, et à partir de là, Pierce Haggard va développer un récit qui, évidemment, parle de sorcellerie avec cette jeune femme incarnée par Linda Hayden, hein, Angel Black, hein, qui va mener une troupe de jeunes, en général, avec quelques personnes âgées, mais c'est surtout des jeunes qui adhèrent à son culte. En fait, c'est une sorcière qui veut faire revenir le démon sur Terre. Hein. Voilà, c'est l'histoire, mais le film raconte aussi autre chose. Hein. le cinéma fantastique est souvent transgressif, hein, et assez critique envers, notamment le cinéma anglais, assez critique envers un certain puritanisme, un certain conformisme bourgeois. Et là, on retrouve un peu cette thématique qui était des thématiques qui hantaient les productions Hammer. Hein, c'est un peu ça. Et donc, en fait, cette bande de jeunes, bon, qui s'automutilent, qui tuent d'autres jeunes et violent aussi des jeunes femmes pour pouvoir s'adonner à leur culte satanique, hein, dans une église en ruine, évidemment. On ne va pas faire ça n'importe où. Finalement, cette bande de jeunes, ils incarnent aussi la jeunesse qui fait peur. C'est la jeunesse qui fait peur à une bourgeoisie qui veut rester dans leur tradition, dans un certain conservatisme. Et ce n'est pas par hasard si, finalement, à la fin, c'est le juge qui est quand même un homme plus, d'un certain âge déjà, hein, qui incarne une certaine rectitude morale, assez puritaine, assez bourgeois.
Il n'est pas très sympathique, ce juge. Il méprise un peu les petites gens, quand même.
Et il méprise les petites gens, oui. D'ailleurs, c'est l'un des premiers à jeter un regard assez méprisant sur cette roturière, quand le jeune homme, qui disparaît plus ou moins du récit, après, amène cette jeune femme...
Mick Jagger, c'est le sosie officiel de Mick Jagger, le jeune homme. Non, mais c'est très rigolo, dans un film au XVIIIe siècle, on dirait voir débarquer un Rolling Stone, comme ça, dans la campagne anglaise.
Ouais, t'exagères un petit peu quand même. Hein. Et donc ce juge qui incarne vraiment l'esprit victorien, hein, l'esprit victorien anglais, ce n'est pas par hasard si c'est lui qui va combattre la bête à la fin, hein, qui va mettre à mal cette jeunesse qui s'égare. C'est un peu des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma fantastique. Hein, c'est finalement l'antagoniste ne fait que personnifier une certaine forme de progressisme, une certaine forme de ce qui fait peur à une société conformiste et bourgeoise, etc. quoi. Donc moi, je trouve que c'est... Mais de toute façon, au premier degré, c'est un très bon film d'horreur, avec des scènes quand même un petit peu olé-olé, hein, pour l'époque, c'est pas mal. Et avec une très belle musique de Mark Wilkinson. Là, je trouve que la musique est vraiment marquante. Et c'est un pur film anglais... qui se passe dans la campagne anglaise, avec les beaux paysages anglais, la belle verdure anglaise. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
Olivier Perre le rappelle, alors c'est un film de la Taïgon. Bon, il y avait aussi la Amicus, il y a la Hammer, c'est la firme la plus célèbre. Mais Olivier Perre le rappelle, c'est un des meilleurs films de son époque, parce qu'à l'époque, ça périclite, la Hammer commence à péricliter, enfin, le gothique anglais se cherche, tout cela commence sérieusement à péricliter. Et ce film-là, c'est vrai que... il amène le fantastique un peu dans d'autres contrées. Il y a cette parabole politique, bien évidemment. Mais par exemple, sur un sujet proche, le Dracula AD 72, enfin 72, ou Dracula 73 en français. Hein, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on l'a appelé 73 en français, vu que c'est... Voilà.
Certainement, parce qu'il est sorti en 73.
Ah, ça doit être ça. Non, mais il traite un peu de la même chose, je veux dire. C'est un peu le même sujet, mais ce n'est pas bien traité, le film de Gibson. C'est rigolo, mais ce n'est pas bien traité. Et là, c'est vrai que le film, il est... Il est ambitieux, il a des scènes malaisantes. Il y a une scène où justement Angel Blake, là, elle va essayer de... Elle a un physique de gamine, réellement, quoi. Elle va essayer de séduire le curé en se déshabillant. C'est très troublant, quand même, c'est très dérangeant. Le film a vraiment, pour moi, un côté, effectivement, que j'aime beaucoup, qui est un côté très envoûtant du film, comme ça. On se laisse porter dans une ambiance bien particulière. Et je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis d'accord aussi avec Olivier Perre. Et puis avec Marc Toulet, qui l'écrit dans son livret. Mais c'est vraiment, pour moi, un des beaux fleurons du cinéma britannique de son époque que cette Nuit des Maléfices de Pierre Sagard, édité par Rimini. Je vais quitter Rimini pour les rivages de SC, mon cher Thomas, pour parler d'une nouvelle collection que propose ESC. C'est la collection Slash Edition, une collection dédiée aux slasheurs. Alors, inutile de vous dire, collection... dédié au slasher, mais tout de suite, évidemment, ça suscite une grande curiosité que, voilà, chez Thomas, chez moi, chez Damien, et on a tout de suite envie de se précipiter vers cette collection qui sort donc en premier volume, on va dire, ce intruder de Scott Spiegel. Ce intruder, en fait, on l'a un peu oublié, c'est un film qui avait plutôt une bonne critique à sa sortie. C'est un film dans lequel il y a toute la bande d'Evil Dead, hein, puisque Scott Spiegel, c'est un des potes, c'est un des assistants et un des potes de Sam Raimi. Ils travaillent beaucoup ensemble. Et là, Sam Raimi produit le film, joue dans le film. Son frère Ted Raimi joue dans le film. Il y a Bruce Campbell qui joue dans le film aussi, Bruce Campbell alias Ash, voilà. Et on sent bien que Scott Spiegel, il a des envies de nous faire des plans à la Sam Raimi avec une caméra assez virevoltante. Et il y a une vraie volonté d'essayer d'apporter un sang neuf, d'insuffler quelque chose de nouveau au genre du slasher. Alors ça se passe dans un supermarché. C'est un supermarché qui va fermer, en fait. Voilà, le patron et son associé, ils décident de convier l'équipe pour leur dire comme ça, leur annoncer que du jour au lendemain, comme ça, la boutique va fermer. Et donc, les employés retournent occuper leur poste. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va peut-être bien, bien fermer, mais alors bien fermer définitivement, parce qu'ils se retrouvent enfermés dans le magasin et il y a un tueur fou qui sévit dans le magasin. Voilà. Et à partir de là, c'est un jeu de massacre. Il n'y a pas vraiment de personnage auquel on s'attache, mais alors par contre, c'est un jeu de massacre assez virtuose. Et ça, on voit quand même, Thomas, ça a son charme.
Ah, il y a de l'idée dans la mise en scène des meurtres. Ouais, le tueur, il est un peu frappadingue. Hein. Il aime bien. Il a de l'humour et il aime bien mettre en scène les macchabées qu'il a semés derrière lui avec une certaine forme d'ironie. Et moi, on voit que c'est un petit film, ça se voit, mais j'aime bien. Je trouve que le film est bien mené, il y a un bon rythme. Bon, il y a des moments où il fait des trucs bizarres dans la première partie du film avec sa caméra, des angles assez étranges. Il me perturbe un peu, des mouvements qui ne sont pas justifiés ou qui surlignent une phrase. Mais dans l'ensemble, le film, il a quand même une petite ambiance, ce quasi huis clos dans un supermarché. Là, il en fait vraiment quelque chose. Il fait vraiment quelque chose de ses décors, notamment tout ce qui est dans les décors où il y a la boucherie avec les morceaux de viande qui pendent. On voit bien, on imagine bien ce qui va se passer là-dedans, évidemment, et ça s'y passe. Il y a un certain sadisme dans les meurtres qui sont quand même qui font bien plaisir aux amateurs de slasher que nous sommes, et avec une fin qui change un peu des autres slashers, une fin assez méchante quand même. Hein.
Le film est assez méchant, parce qu'on peut y voir une parabole sur l'ultralibéralisme, le capitalisme. Enfin voilà, puisque c'est, enfin, on va pas dévoiler l'histoire du film, mais on peut y voir une vraie parabole avec ces employés qui sont de la chair à pâté, quoi, qui sont sacrifiés, quoi, voilà, sur l'autel du profit. Donc ça, c'est assez rigolo, même si c'est pas du Ken Loach, hein, loin de là. On est sur un tout petit budget qui tire le plus grand parti possible de son budget. Alors c'est un peu long à démarrer. Tu l'as parlé de la première partie, c'est un peu long. On attend les premiers meurtres, puis après quand c'est parti, c'est l'apocalypse sanglant après. Voilà.
Assez bien Kraspec. Hein.
Voilà, alors je vous conseille aussi de lire le livret de Marc Toulek, hein, qui apporte plein d'anecdotes sur le film, son histoire, tout ça, parce que c'est un film qui a une petite aura de film culte quand même. Hein. Ce Intruder de Scott Spiegel sorti chez USC. Écoutez Culture Prohibée. Alors, toujours chez ESC, je me tourne vers Damien. Alors c'est une ressortie parce qu'il a très vite été épuisé dans une édition magnifique, hein, d'ailleurs. Le Director's Cut de Cabal, un film de 90 de Clive Barker, qui ressort là donc chez ESC, mon cher Damien. Un film assez singulier aussi, d'ailleurs, dans lequel Cronenberg fait l'acteur.
Cabal de Clive Barker, c'était un film que je voulais voir depuis très longtemps, que j'avais pas eu l'occasion de voir parce que Clive Barker, son œuvre m'avait assez vite intéressé, comme beaucoup de monde, quand j'avais découvert Hellraiser, et ensuite j'ai été subjugué quand j'ai vu les liens qu'il y avait avec Event Horizon. Alors, le film raconte une histoire assez complexe en soi. Alors, convaincu par son psychologue, le docteur Decker, qui pourrait être un serial killer, qui sévit dans la région, Aaron Bone quitte sa petite amie pour se réfugier dans le cimetière de Midian, qui a en fait un accès à une cité mythique dont les habitants sont des monstres... qui hantaient les cauchemars de Bonne, qui l'a emmené jusque-là. À un moment, il va se retrouver mordu par l'un d'eux, puis il va se faire tuer par la police, mais grâce à cette morsure, il va revenir à la vie, il va rejoindre les rangs de ces créatures des ténèbres. Sauf que vu que son corps a disparu de la morgue, ben, la police il commence à le rechercher un tout petit peu partout. Avant de me pencher sur les acteurs, il y a un truc... Alors, j'ai tilté immédiatement, et je ne pensais pas que j'avais cette infinité avec le musicien, c'est que la musique, elle est faite par Danny Elfman. Et c'est quelque chose qui m'a marqué immédiatement. Le gros point noir que je trouve au film, c'est qu'il a certaines scènes qui sont extrêmement surcutées, un peu trop, je ne sais pas si c'est pour vouloir un moment qui est très dynamique, mais ça fait quelque chose d'étrange. Dès l'introduction, c'est quelque chose qu'on voit parce que l'introduction est faite par des monstres qui sont en train de courir. On ne sait pas trop s'ils sont poursuivis, où ils vont. Et ça nous permet de mettre immédiatement quelque chose qui va être super bien dans le film, ce sont les costumes. Parce qu'il y a énormément de monstres, il y a beaucoup de costumes et la majorité des costumes sont très beaux à voir. Il y en a qui sont grotesques, mais c'est parce que les personnages sont grotesques. Il y a autre chose qui est magnifique, c'est le masque de tueur. Alors... dire que c'est le docteur Decker, c'est pas vraiment un spoil parce que très vite on s'en doute. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu disais, Jérôme, c'est que ici on a Cronenberg qui vient jouer le docteur et le serial killer. Cette fois, il est pas enveloppé d'un linceul, mais il porte sur sa tête un masque dont j'apprécie énormément l'esthétique. Je trouve qu'il est très simple, mais qu'il est extrêmement marquant. C'est un film qui essaye de faire beaucoup de choses en même temps. De base, on vend Midian comme cette ville peuplée de monstres. Où vont les monstres? Et en fait, une fois qu'on y arrive, on se rend compte que les monstres ont fui et que ce sont un peu des réfugiés. C'est quelque chose qui, je trouve, a un peu du mal à fonctionner parce qu'au départ, on nous présente vraiment les monstres comme des monstres et derrière, on nous dit « Ah non, mais en fait, c'était pas exactement des monstres. » Sauf que le film, la première version qu'il nous donne, c'est des monstres, donc il change un peu de son dialogue, mais c'est un film qui essaie de parler en fait de l'acceptation de la différence et malheureusement pour lui, son montage joue légèrement contre lui, mais vraiment, les designs des monstres, ils sont incroyables. Chaque monstre qui apparaît est fou, même l'entité dont je ne vais pas préciser, qui vit en dessous de Midian, elle est magnifique. Je ne sais pas si c'est le cas dans la version originale, mais la scène de fin avec les explosions et l'assaut du cimetière, c'est une scène qui prend beaucoup de son temps pour montrer tous les dommages. Et c'est un film où je me suis dit que c'était incroyable que Baker ait autant d'argent. Après, il arrive après, si je ne me trompe pas, les succès de Hellraiser, donc les gens lui font confiance. Mais j'étais quand même surpris par tous les moyens qu'il a eu pour faire son film. Au final, c'est un film qui nous parle de l'histoire d'un innocent qui est convaincu qu'il est un monstre pour finalement devenir un monstre et agir comme un héros. On dirait le début d'un scénario de super-héros.
On rappelle que ce Cabal Director's Cut est disponible chez ESC. Autre film, autre éditeur, Rimini Édition, qui dans sa collection horrifique, qui commence maintenant à être bien étoffée quand même, nous propose un film de Philippe Brophy. Alors Philippe Brophy, il est co-scénariste, il est compositeur de la BO, il est réalisateur, qui s'appelle Body Trash. Mais moi, quand je l'ai vu en 93, il s'appelait Body Melt, en fait. Hein. Il avait un autre titre. On l'avait découvert à l'époque sur Canal+, d'ailleurs, hein, qui avait passé ça hein, pour notre plus grand plaisir d'amateur de gore. L'histoire du film, elle est assez simple. D'ailleurs, le scénario ne se tient pas vraiment après. Hein. Il y a une sorte de nouvelle vitamine qui est testée sur les habitants d'une petite ville australienne, parce que c'est un film australien, je ne vous l'ai pas dit. Donc, c'est de la Ozploitation, comme on dit. C'est un peu la queue de comète, c'est la fin, puisque la Ozploitation a connu son apogée avant, bien avant les années 90. Et en fait... on teste à leur insu sur ses habitants cette étrange vitamine là, et en fait le chercheur, lui qui a découvert la molécule, il tente de donner l'alerte, mais bon, il peut pas vraiment, hein, je vous dis pas pourquoi, et deux policiers mènent l'enquête tandis que ben, il commence à y avoir des effets secondaires qui sont dus à cette vitamine qui se propage un peu partout dans la, dans la communauté. Et bah, mon cher Damien, voilà un film alors avec une esthétique assez clinquante, volontaire hein, de toute façon, parce que c'est un film qui a un tout petit budget, qui nous propose du gore, de l'érotisme, de l'humour complètement débile. Voilà, donc du coup, j'ai envie de dire, je signe. Je me suis bien marré à revoir ça. Alors, évidemment, c'est pas le grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais je me suis bien marré à revoir ça. Et bon, il y a une réplique quand même qui m'a fait mourir de rire. Alors, je sais, j'ai un sens de l'humour peut-être particulier, mais il y a une famille de consanguins en fait à un moment, et puis il y a une fille dans cette famille qui couche avec un garçon qui est pas de la famille, quoi. Et ça crée une situation tendue. Et puis il y a le père qui dit à la fille je t'avais dit, bon sang, on ne fait ça qu'en famille. Voilà, alors ça m'a fait beaucoup rire. C'est totalement con et irresponsable, mais voilà. Mais au final, cette série B, Z, même par moment, on devine que le budget est tout petit. C'est pour ça que Brophy occupe beaucoup de postes, d'ailleurs. Bah, remplit son contrat. Moi, j'ai passé un bon moment d'amateur de cinéma bis. Voilà. Vraiment déjanté, quoi.
Body Trash de Philippe Brophy, c'est vraiment le film, comme tu as dit, qui a peu d'argent, qui en plus est australien, donc il y a un côté déjanté qui se rajoute à ça, sans doute parce que c'est une île remplie d'anciens criminels, merci à la colonisation britannique. C'est un film dont la peur va jouer sur la body horror, donc on va avoir beaucoup de corps qui vont enfler et très souvent exploser. L'autre chose que ça lui permet de faire, c'est une critique sociale. Alors il a fait avec des gants de boxe, hein. Comptez pas sur la finesse d'un De Vinci dans ce film. Et hasard du calendrier, c'est que l'année dernière, on a eu The Substance qui repartait un peu sur du body horror et à nouveau de la critique sociale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Non, mais je voulais le faire quand même. Alors la première chose qui saute, en tout cas qui a sauté à mes yeux, c'est la couleur qui est extrêmement acide et extrêmement pétante. On essaye de faire ressortir quelque chose un peu de la façon dont on s'imagine peut-être le début des années 90 ou les fins des années 80 avec du rose pétant, du vert fluo un peu partout. Le film, c'est un énorme bordel énergétique. En fait, on va avoir plusieurs scènes qui vont s'enchaîner parce que on teste ce médicament, cette vitamine à l'insu des gens et en fait, chaque personne va avoir la vitamine et chaque personne va avoir sa réaction à la vitamine. De base, ça commence, c'est bénéfique et ensuite, explosion, gonflement du sang et des parties de corps absolument partout. Alors, quand je dis que c'est un bordel énergétique, c'est un bordel énergétique qui réfléchit de temps en temps. On a même un moment, il va réussir à placer une caméra à l'intérieur d'un corps. Alors, pas vraiment dans un corps, mais on va avoir l'effet qu'on a à l'intérieur du corps pour voir la palpitation ou le gonflement du corps. Il y a des trucs qui sont très bizarres, notamment un moment quand un des personnages arrive dans une famille de consanguins et qu'il essaye de s'enfuir avec le camion. Il fait juste un rond autour d'un tronc d'arbre qui est très bizarre, mais qui donne... En fait, l'image est belle, c'est stupide, hein, mais l'image est quand même belle et un peu apaisante, même si on sait qu'il va mourir à la fin. Alors, c'est un film qui a plein d'idées partout. En fait, ça ressemble un peu à un enfant qui essaye de nous raconter sa journée, sauf que dans sa journée, il y aurait des meurtres partout.
Je rappelle que Body Trash, le film de Philippe Brophy qui est sorti en 93, donc là, il ressort chez Rimini dans une très belle édition Blu-ray. Et je vais changer d'éditeur pour passer chez BQHL, mais toujours avec un réalisateur australien et qui s'appelle George Miller, le réalisateur australien, évidemment, continue de sévir aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler d'un, mon cher Damien, d'un film pour enfants qui est quand même filmé comme Mad Max Furiosa, quoi. C'est un film très étrange. C'est la suite de Babe, qui est un peu un film mal aimé en plus dans sa filmographie. C'est Babe, le cochon dans la ville. Make a grey sky blue and a task that seems impossible is quite possible for you. A kind and steady heart is sure to see you through. It may not seem like very much right now. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur. Find yourself in the middle of a storm and you're tired and cold.
Gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, "That'll do, babe. That'll do."
Alors, il y a une esthétique qui est étrange, je trouve limite l'intro effrayante. C'est une esthétique qui est très particulière. En la renvoyant, ça m'a un peu rappelé les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Brad Silberling, qui est un mélange où en fait on a plusieurs esthétiques. Un petit côté Jeunet, un petit côté Big Fish de Tim Burton, sauf qu'on va avoir des animaux. Donc Babe, c'est l'histoire d'un cochon qui peut parler. L'histoire, c'est qu'à la fin du 1, il gagne un concours de chien berger. En fait, Babe, c'est un chien berger, c'est un cochon, mais son travail, c'est chien berger. Sauf que son maître, son fermier qu'il adore, est blessé. Et en fait, c'est la femme du fermier qui va reprendre la ferme comme elle peut. Sauf qu'ils vont commencer à crouler sur les dettes parce que le mari va se blesser un peu totalement à cause de Babe. Et donc, pour essayer de gagner de l'argent, elle va partir à une compétition de chien berger pour y montrer Babe, pas forcément pour y participer. Elle va arriver dans une ville imaginaire qui mélange plein de villes, on dirait une fusion entre Manhattan, entre New York, entre Venise, entre une ville en Suède ou aux Pays-Bas. C'est un fourre-tout, un peu comme le film. Il y a quelque chose qui fait, en plus de son esthétique marquante et de très bizarre, c'est qu'il décide d'y mettre un chapitrage qui est fait par des souris aveugles qui chantent. Vous voyez que ça devient très très bizarre. Et le summum de ça, de ce film pour enfants qui rajoute des éléments bizarres, c'est qu'il y a plein d'enjeux sociaux importants qui sont traités à l'intérieur, comme la précarité ou la communication. Et c'est quelque chose qui fait ressortir par les animaux qui entourent Babe. Notamment, on a une famille de singes dont le père singe ressemble un peu à un plombier new-yorkais des années 50 qui aurait fini sa journée et qui serait chez lui. La femme, elle est un peu dans l'esthétique pareil, d'une femme des années 50, et l'enfant est juste un casse-pied. Et à côté de ça, il y a un orang-outan qui s'appelle Thelonious, qui a un peu ce syndrome de l'esclave qui a fini par adopter les coutumes du maître et qui veut rester soumis à son maître. Il y a une caniche qui apparaît à ce moment-là, qui a une voix d'une péripapéticienne qui travaillerait dans la rue et qui cherche un nouvel endroit. Les personnages sont très bizarres parce qu'en fait, ils sont beaucoup trop matures par rapport à ce que le film pour enfants est censé vendre. Mais il y a des plans qui sont très beaux, notamment il y a un moment où l'orang-outan prédit que la maison dans laquelle tous les animaux arrivent à se réfugier va bientôt tomber. Et cette scène, elle est introduite par lui qui regarde à travers un vitrail. Donc on a lui devant un vitrail avec la lumière qui lui tombe dessus. Et c'est un plan qui est magnifique. En fait, quand je regarde Babe, ce que j'y vois, c'est un peu une sorte d'entraînement pour George Miller, qui affirmera plusieurs choses qu'il mettra derrière en avant, c'est-à-dire film pour enfants, enjeux sociaux importants, et le film suivant qui fera et qui aura ces deux choses, c'est son film d'action, Happy Feet. Donc, je trouve ça bizarre de dire que c'est un film pour enfants, mais bon, je suis allé voir une avant-première de Ma vie de courgette, les enfants ont adoré, donc qui suis-je pour juger ce qu'ils peuvent aimer ?
Oui, Babe est un film assez étonnant. Il y a aussi un beau plan séquence pendant, comment on dit, sur une sorte de plateau cinéma, qui est assez dément en fait. Ce plan séquence, il est assez fou, quoi. Et bon, voilà, c'est un objet filmique non identifié que ce Babe 2, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est pas le premier Babe. Babe, le cochon dans la vie, donc de George Miller, qui est paru chez BQHL. Alors, on va finir l'émission par deux films, mon cher Damien, deux films qui ont marqué leur époque, le début des années 2000, et qui sont deux films qui sont sortis chez ESC. Alors, on va commencer par ces deux films signés en plus par deux gars qui ont percé en même temps, qui ont un acteur en commun en plus dans les deux films, Jérémy Sisto. Deux films qui ont révélé deux réalisateurs qui après vont être tout de suite portés, comment dire, érigés en futurs maîtres de l'horreur. On va les retrouver dans les Masters of Horror, dans des anthologies, tout ça. En fin de compte, aujourd'hui, ils sont un peu disparus. Enfin, plus Rob Schmidt, d'ailleurs. Lui, il a disparu complètement. Mais on va d'abord parler du film de Lucky Mackie, qui est May, un film de 2002, qui est un film qui lance un peu la carrière de Lucky Mackie. Alors, il l'explique bien dans les bonus. Hein, c'est d'ailleurs le bonus le plus intéressant, l'entretien avec, avec Lucky Mackie. Il raconte un peu son parcours scolaire, tout ça, et comment... Parce qu'en fait, Lucky Mackie... comment dire, qu'il y a très très longtemps on avait réussi à voir dans l'émission, eh bien il a démarré par All Cheerleaders Die, qui était un film amateur tourné avec ses potes, qui était à l'école de cinéma avec lui, et un truc de, je crois que c'est un moyen métrage, je l'ai jamais vu, hein, c'est très très dur de le trouver, et il fera un remake d'ailleurs avec beaucoup plus de budget quelques années plus tard. Et May est vraiment son premier long, on va dire, ambitieux, commercial, c'est son premier vrai long métrage en vérité, et qui va vraiment marquer son époque, qui est un film très soigné, hein, d'ailleurs, hein, dans l'esthétique. Et il est avec Angela Bettis. Angela Bettis, c'est une actrice au physique un peu fragile, comme ça, elle est un peu gracile. Et là, en plus, ils nous l'ont affublé d'un strabisme phénoménal. Et c'est elle, May, en fait. Et May, depuis son enfance, elle n'arrive pas à se faire d'amis. Et pour faire simple, hein, l'histoire, c'est celle-là. Elle n'arrive pas à se faire d'amis, donc elle va s'en fabriquer un. Voilà. En gros, l'histoire, c'est celle-là. Alors, bien sûr, le film est plus complexe que ça. Et le film démarre comme presque comme une comédie romantique. Moi, je trouve même que d'avoir mis un flash-forward au début, c'est une erreur qui indique que ça va être un film d'horreur. Parce que, à la limite, si on ne le sait pas, c'est encore plus surprenant. C'est-à-dire que, par bribes, il va y avoir quelques flashbacks. On découvre May, jeune adulte, qui travaille dans une clinique vétérinaire, qui est assistante d'un docteur qui a un accent à couper au scalpel. Voilà. Et donc, qui va tomber un peu amoureuse d'un garçon. Voilà. Elle n'a jamais eu vraiment d'amis. Bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'assistante du véto, qui est hyper sexy, elle est lesbienne, elle en pince pour elle. Mais ça, elle ne le sait pas. Elle ne le voit pas, en tout cas. Et elle va, du coup, se mettre à porter des lentilles, tout ça, pour combattre ce strabisme et cette solitude. Elle est rongée par la solitude. Et on découvre par bribes son passé, son enfance, avec un père aimant, une mère aimante, mais une mère qui est une sorte de freak contrôle, qui lui impose dès tout jeune de porter un bandeau à la John Ford, qui, bien sûr, les autres gamins à l'école étaient une pirate. Bah non, bon, du coup, ils s'en foutent d'elle. C'est pas une pirate. Eux, ils croyaient que vous alliez être copain avec une pirate. Quand même, c'était cool d'être copain avec une pirate. Et puis, toute son enfance va être jalonnée par sa solitude. Et puis, un jour, sa mère va lui offrir une poupée très moche, étrange, flippante, qu'elle a faite elle-même, et qu'il ne faut pas sortir de sa boîte, comme si c'était un objet maléfique. Elle dit, voilà, si t'as pas d'amis, je t'en ai fabriqué un. Ouais, maman, ok. Tu serais pas un peu psychopathe sur les bords, maman, hein, parce que là, t'es en train de me faire accumuler des traumas, là. Et petit à petit, voilà, on la découvre ensuite adulte, jeune adulte, elle a la petite vingtaine, hein, dans le film. Et puis, elle va tomber amoureuse de ce garçon, mais... On va dire que May, mon cher Damien, elle n'est pas armée pour avoir une relation sentimentale normale. C'est une inadaptée, en fait. Et ça va dériver de manière très, très gore.
You don't think I'm weird?
I do think you're weird.
I know that.
I like weird. I like weird a lot.
Alors, mais si elle n'a pas les codes sociaux, c'est aussi pour ça qu'on a l'introduction du film. Peut-être qu'ils avaient peur qu'on ne comprenne pas pourquoi elle n'était pas adaptée. Mais en effet, le flashback aurait pu attendre. C'est que vu qu'elle était petite et qu'elle ne s'est fait aucun ami, en fait, elle ne sait pas comment se faire des amis, mais aussi se comporter et communiquer avec les autres. Donc elle est un peu reformée sur elle-même. Elle a sa poupée pour discuter. C'est elle qui la conseille comment draguer. Donc là, on sent quand même qu'il y a certains problèmes. Il y a par contre des qualités qu'elle a, c'est que elle sait coudre. Et pareil, dans son travail, elle s'en sort super bien. C'est-à-dire que le vétérinaire, il a un accent incompréhensible. L'assistante, pas elle, bon, plutôt la secrétaire, elle ne comprend pas à moitié des choses qu'elle dit, mais elle est là, elle comprend, et elle fait le lien entre tout. Le fait qu'elle n'ait pas les codes sociaux, ça a créé des inégalités dans ses relations, mais aussi dans la compréhension des attentes que les autres personnages ont d'elle, notamment quand elle a son crush amoureux, elle tombe amoureuse de lui par rapport à Oma, parce que May, elle a vraiment des obsessions pour les parties des corps des gens qu'elle rencontre et que d'un coup, elle va beaucoup aimer. Et lui, c'est ses mains, c'est un mécanicien. Et quand ils commencent à flirter ensemble, ce mécanicien, il est un peu dans l'idée « Ah, moi, j'aime bien les choses gore, j'aime bien un peu les choses crues. » Et May, vu qu'elle n'a pas ce filtre social, elle le prend au premier degré. Et quand il lui demande de raconter un truc dégueu, elle raconte vraiment quelque chose qui est affreux par rapport à un chien à qui on a fait des sutures, mais les sutures ont sauté. Et lui, il se dit « Oui, non, mais en fait, je demandais un truc gore, mais pas à ce point-là. » Et ça se voit parce qu'il va réaliser un film qui va montrer à May, et c'est vraiment un film... Alors, c'est un court-métrage, il est vraiment pas terrible, mais elle a la gentillesse de juste dire « Ah, mais c'est bizarre, au moment où lui mord le doigt, c'est pas irréaliste parce qu'on peut pas arracher un doigt en faisant comme ça. » C'est très bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que May, on vend souvent le fait qu'elle va construire son amie, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment tardivement dans le film, parce qu'on va juste enchaîner des moments qui sont particuliers. Notamment le moment où elle commence à mettre des lentilles, on va passer son temps sur le fait qu'elle essaye de mettre des lentilles, mais qu'elle n'arrive pas. Donc on a un plan pas fixe, mais qui dure plusieurs secondes sur un œil, où elle met la lentille, elle n'arrive pas à le mettre, donc on voit son œil, le fait qu'elle bouge pour essayer de mettre la lentille. Et bien évidemment, quand on met des doigts sur les yeux, comme la plupart des personnes, c'est assez c'est dégueu et c'est assez violent. L'un des moments le plus violent, et je sais que ça t'a marqué Jérôme et moi aussi, c'est quand elle décide de faire autre chose dans sa vie pour se changer les idées, qu'elle décide d'aller aider des enfants qui sont aveugles, qu'elle décide de ramener sa poupée, sa meilleure amie, autant pour moi, toujours protégée par la vitre en verre, sauf que les enfants aveugles, ils touchent, qu'est-ce qu'ils touchent, c'est du verre, et en fait, ils ont envie de toucher la poupée, et ce qui va se passer, c'est que la boîte va tomber, le verre va se casser, les enfants vont vouloir toucher la poupée, mais vu qu'ils sont aveugles, là où ils vont poser leurs mains, c'est pas sur l'objet, c'est sur le verre brisé au sol. Il y a plein de plans comme ça qui sont déstabilisants, assez cru, qui fonctionne très bien dans le film. L'autre chose qui est, c'est le montage qui est très brut. Il n'y a pas de fondu au noir, on change de chaîne, on change de scène quand on a besoin de changer de scène, ce qui fait que le film nous déstabilise et on se retrouve un peu dans la peau de May, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas les codes sociaux, nous on ne comprend pas forcément la façon dont le film est raconté.
C'est un film très soigné, hein, sur le plan de la mise en scène. Moi, en le revoyant, j'étais épaté quand même, dès le début, dès le générique, avec cette fermeture très court, on indique le titre, il y a une toute petite tache de sang qui apparaît. Et puis, il faut le dire, en fait. Bon, je regrette qu'il y ait le flash-forward au début. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas le flash-forward, le film, pendant 45 minutes, c'est une comédie romantique, quoi. C'est-à-dire que c'est une jeune fille, elle n'est pas plus moche qu'une autre, mais enfin, en tout cas, elle se trouve pas très jolie, elle n'est pas bien dans son corps, elle n'est pas bien dans sa tête aussi, hein, ça voilà. Et elle va tout faire, parce que le personnage qu'elle drague, c'est Jérémy Sisto. Alors oui, il est garagiste, mais il est surtout un peu artiste. Il voudrait devenir réalisateur. C'est un universitaire qui a arrêté l'école. En fait, en vérité, il n'est pas con du tout. Il est super cultivé. Il coche toutes les cases, quoi. En plus, il est doué, parce qu'évidemment, comme tous les gens intelligents, parce que pour être mécano, il faut être intelligent. Hein. Il faut un grand sens de la logique. C'est un matheux. Donc, il a toutes les qualités. En fait, il combine toutes les qualités. C'est vrai. Il est gentil, en plus.
Ouais. En plus, les deux scènes où tout le monde, c'est première, il répare sa moto. Deuxièmement, il est dans un café, il est en train de lire, il s'endort devant ce qu'il lit, mais il lit durant très longtemps son bouquin. Donc ça met en avant qu'il sait se servir de sa tête.
Et de ses mains et de sa tête. Donc c'est un type, c'est un type idéal. Hein, voilà. Non seulement il va vous réparer la voiture, il va vous faire des caresses incroyables, et puis il va vous emmener voir des bons films au cinéma. Mais que demande le peuple, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà, il y a beaucoup de références à Argento, d'ailleurs, dans le film. Donc c'est une sorte de... Son film, tu l'as dit, Damien, c'est une sorte de version noir et blanc et un peu cheap du film de Douglas Buck, du court-métrage Cutting Moments, que moi j'avais découvert... À l'étrange festival, je peux vous dire que ça avait marqué le public. Hein, voilà. Puisqu'en gros, c'est l'histoire d'un couple qui fait l'amour puis qui se mange en même temps. Là, pas Cutting Moments. Dans Cutting Moments, il se découpe, mais dans le court-métrage qu'il a fait dans May, Jérémy Sisto, c'est ça. Et moi, je trouve que le film, c'est très intéressant. Comment il introduit, tu l'as dit, il n'y a pas d'effet. C'est ça qui est intéressant dans la mise en scène. Il n'y a pas d'esbrouf, quoi. Voilà. C'est de la pure mise en scène, c'est vraiment bien foutu. Et il amène petit à petit, par petites touches, il amène le malaise. On sent bien qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Mais au début, c'est presque charmant. Elle est charmante presque au début. Et puis ce malaise, après, c'est plus charmant du tout, quoi. C'est effrayant, quoi. C'est flippant. Et ce lien avec ces gamins aveugles, en fait, c'est parce qu'elle se retrouve dans la solitude d'une petite fille qui, en fait, est une peste. Elle est méchante comme tout, en fait, par rapport au groupe qu'elle voit quand elle va dans le parc, au groupe d'enfants qu'elle voit. Et ouais, alors moi, c'est un film que je trouve très marquant, très réussi. Et en même temps, j'ai trouvé ça très bon quand je l'ai revu. Je me rappelais même pas que c'était aussi bien monté, réalisé, tu sais, et tout. Et en même temps, le film ne m'a pas emporté comme la première fois à La Revoyeur. C'est-à-dire, j'avais moins d'empathie pour May que j'en avais lors de la première vision du film. Et puis, par contre, c'est un formidable travail sur comment on devient un psychopathe, en fait, puisque cette fille, c'est un psychopathe. Hein. Et parce qu'on le voit, elle désensibilise on découpe les parties du corps et tout, comme ça, ça déshumanise ta proie, mais elle garde quand même ses fétiches, tout ça. À un moment, elle garde quelque chose au frigo qu'elle ne devrait pas garder, mais elle garde ses fétiches, elle garde... C'est une psychopathe, en vérité. Hein. Elle n'a pas d'empathie pour les autres. Elle s'intéresse à elle, à son malheur à elle. Etc. Mais en fait, elle n'a pas vraiment d'empathie. Ce qui l'intéresse chez Jérémy Sisto, c'est ses mains. Elle ne s'intéresse pas à lui, réellement. Ses films, son univers et tout, ça l'intéresse qu'un petit peu, comme ça, mais...
Ouais, est-ce qu'il est vraiment intéressant?
Ah, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, puisqu'elle a envie... Puisqu'elle le séduit, si tu séduis quelqu'un, tu t'intéresses quand même un peu à ce qu'il fait. Sinon, c'est pas très intéressant, la séduction. Et là, c'est quand même elle qui le séduit. C'est elle qui va vers lui. C'est pas l'inverse, quoi. Donc, voilà, et c'est... C'est un drôle de film, quand même, hein, mais... un des meilleurs de Lucky McKee, hein, rétrospectivement. Écoutez Culture Prohibée. Autre film sorti chez ESC que j'étais bien content de revoir, c'est un film sorti l'année d'après May, c'est un film sorti en 2003, un film de Rob Schmitt, et c'est Détour mortel. Alors là, j'ai été content de le revoir, et en plus, c'était aussi bien, voire mieux que dans mon souvenir. Alors là, j'étais scotché parce que je vous avais parlé dans une précédente émission de Monster Man, qui est un film qui datait d'un tout petit peu avant, qui avait un peu... À l'époque, relancer le film d'horreur, la série B américaine et tout, tout le monde avait trouvé ça sympa. Puis quand j'avais revu Monster Man, bon, je l'avais dit dans l'émission, j'avais trouvé quand même qu'il y avait une bonne moitié du film qui n'était pas terrible, quoi, puis que ça avait pris quand même un petit coup de vieux, quoi. Et là, Détour mortel, ben non, ça n'a pas... Voilà, c'est toujours aussi bien et efficace aujourd'hui. Alors, Détour mortel, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement l'histoire d'un jeune homme qui est en pause, hein, qui faisait des études de médecine, mais qui est en pause, là, qui est dans une période un peu un peu particulière de sa vie. Il décide de prendre un raccourci qu'il n'aurait pas dû prendre. Depuis David Vincent, on sait qu'il ne faut pas prendre les raccourcis. Et puis là, il percute un véhicule qui était en plein milieu de la route. Et un véhicule qui s'était retrouvé là, parce qu'en fin de compte, il était tombé dans un piège. Il y a des gens qui avaient tendu sur la route des pics pour que les pneus crèvent. Et puis, ils se mettent à aller chercher de l'aide, parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Et il part avec ce groupe de jeunes, constitué de trois jeunes femmes et de deux jeunes hommes. Et puis, ils vont rencontrer une famille de tarés, en fait, une famille de psychopathes à côté, la famille tronçonneuse. C'est les enfants de cœur. Donc voilà, et ça va défourailler, ça va charcuter dans tous les sens. Étonnant ce film, étonnant. Je comprends pas, pour moi c'est un mystère. Rob Schmitt, il a été tout de suite, comment dire, hissé au rang de Masters of Horror. Il a d'ailleurs participé à la série. Le film a eu un énorme succès. Et pourtant, Rob Schmitt va plus rien faire, en fait, quasiment ensuite. C'est vraiment c'est un peu un film maudit, en fait, en quelque sorte. Elisa Dushku, elle a été victime d'agression sexuelle. Elle a quitté le milieu du cinéma. Alors qu'elle, c'était une petite star, quand même. Elle avait des séries télé dont elle était la star, tout ça. Elle va quitter le milieu du cinéma pour devenir une universitaire. Emmanuelle Schricki, la très jolie actrice qui fait la mi-chiante, quoi, celle qui se coince toujours les pieds dans la liane et qui se casse toujours la figure pendant qu'on est poursuivi par des méchants. Elle va avoir à l'époque, elle a une carrière en plein envol. Elle tourne aussi dans une des meilleures comédies avec Adam Sandler, Rien que pour vos cheveux, et qui est génial, un de mes films préférés. Et là, sa carrière s'est arrêtée. Elle tourne plus beaucoup en ce moment. Et puis il y a Jérémy Sisto, mais son rôle est Et c'est pas celui qu'on voit le plus. Celui qu'on voit le plus dans les personnages masculins, c'est Desmond Harrington. Et Desmond Harrington, il a le vent en poupe. Il a un super début de carrière. Il tourne dans un film très étrange. Ça fait Love Object, où il tombe amoureux d'une poupée gonflable. Là, c'est très, très glauque. C'est une sorte de version sans humour du film de Paul Bartel, Private Parts. Et c'est vachement bien, d'ailleurs, dans mon souvenir. Hein. C'est une petite série B malaisante. Et puis, il va devenir un des personnages récurrents de Dexter, aussi, la série. Puis, il va un peu disparaître des écrans. Donc, tout ce petit monde a disparu, malheureusement. Hein. Tout ce petit monde a disparu. Et même le réalisateur, Rob Schmitt, a complètement disparu des écrans. Et pourtant, Détour mortel va devenir une saga qui va donner lieu à toute une série de films qui va absolument cartonner, quoi. Alors, les autres films sont vraiment... cheap, quoi. Hein, voilà, même s'il y en a des très sympas dans la série, mais c'est pas du tout le même type de budget. Là, on est vraiment sur un film trépidant, incroyablement bien mis en scène. Il y a des très beaux plans séquences dans le film. J'étais épaté de revoir ça avec un film avec un rythme effréné. Il se passe quelque chose tout le temps dans le film. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et puis, on ne s'emmerde pas à essayer de caractériser ces tueurs, de leur trouver des origines. Rien à foutre. C'est des monstres horribles et ils fracassent tout le monde. Et c'est hyper glauque, l'ambiance est hyper glauque. C'est très, très gore quand ça rigole pas. L'esthétique est bien crade. C'est un peu une esthétique un peu comme celle du remake de Massacre à la tronçonneuse. Et ça, une esthétique qui est crade et en même temps avec une belle photo. Bon, là, c'est pas Daniel Pearl, mais il y a une belle photo, mais c'est crade, ça suinte. Et puis en plus, le film dure 1h20, générique compris. C'est-à-dire qu'on s'emmerde pas à nous raconter plein d'intrigues subalternes. Et dans les bonus là, de cette édition éditée par OSC, on voit qu'ils ont coupé des scènes. Ils avaient même coupé une histoire d'amour entre Desmond Harrington et Elisa Dushku, qui sert à rien, en fait. T'es poursuivi, on veut te tuer, tu vas pas te rouler des pelles, quoi. Je veux dire, ils sont beaux tous les deux, hein, bah, ça c'est sûr. Hein, mais là, il faut juste qu'ils sauvent leur vie, quoi. Voilà. Donc c'était pas très crédible dans le déroulé de l'histoire. Ils ont supprimé, ils ont vraiment enlevé tout le gras. Et il nous reste un film d'horreur incroyablement gore, efficace et très bien mis en scène. Vraiment, pour moi, le panard, quoi.
Détour mortel de Rob Schmitz respire bien, en fait, le film d'horreur des années 2000. On a un peu cette couleur qu'on avait sur tous les mêmes films, sauf May, qui y échappe. Mais au départ, quand on commence ce film, on se dit juste « Ah, ça va être une colline à des yeux dans les bois. » Même si ça reprend des idées, c'est vraiment très différent. Ces monstres qui sont en fait juste des humains au corps modifié, qui reprennent un peu ce rôle de « On va dans la campagne, on se retrouve face à des monstres, c'est les gens de la campagne. » Super au niveau de la façon dont on perçoit les gens en dehors des villes. Mais ici, en fait, ils seront détaillés uniquement après. Il y a quelques détails qui ressortent. Par exemple, il y en a un qui est très grand et qui a une lèvre qui est remontée. Il n'a pas de nom, mais on arrive à l'identifier. Il y a Trifinger qui vraiment va se personnaliser avec le temps, qui a la particularité d'avoir trois doigts et qui est un excellent archer. Mais il y a surtout des plans qui fonctionnent très bien, notamment quelques scènes de silence, alors qu'on est au début des années 2000 et s'il n'y a pas de musique rock en arrière-fond. À l'époque, on ne considérait pas que c'était un film d'horreur, bizarrement. Mais ici, on va se permettre des scènes de silence, notamment le moment où ils vont se retrouver dans la cabane de leurs tueurs sans savoir que ce sont leurs tueurs. Ils vont voir les monstres, ils vont voir leurs tueurs arriver, ils vont décider de se cacher. On a toute une scène de silence où ils doivent essayer de s'évader en fait, de cette maison sans faire de bruit. Scène de silence qu'on retrouvera après au moment où ils essayent de s'échapper dans les arbres, qui est une très belle scène, qui est une scène qui est extrêmement cool, où ils vont de branche en branche en espérant ne pas se faire attraper, dont une scène de meurtre qui est très cool, où en fait, il y en a une qui se fait avoir, on voit juste la hache se planter, et en fait, on part de l'œil. On dézoome, en dézoomant, on voit le visage, en dézoomant encore, on voit la hache, et en fait, quand on dézoome, on se rend compte que le corps est en train de tomber, et à ce moment-là, on a un plan en plongée, où on voit justement le corps qui tombe et qui percute chaque branche dans sa chute. Il y a une dernière chose qui est très cool dans ce film, c'est le personnage qui est joué justement par Elisa Dushku, qui est en fait une final girl, mais c'est une final girl qui sera pas tout seule, mais qui est extrêmement compétente. En fait, du début à la fin, c'est un peu elle qui porte l'action. C'est elle qui arrive en disant « On nous a piégés, il y avait un truc pour... sur la route qui nous a fait tomber. » C'est elle qui va aider le héros, qui va vouloir jouer au héros et qui en fait va se faire blesser au niveau de la jambe. Donc c'est elle qui va littéralement le porter sur une grande partie du film et même l'aider à monter. En fait, le personnage compétent du film, c'est pas le médecin, parce que même s'il est blessé, à aucun moment on l'entend donner les indications pour se guérir lui-même. C'est elle qui à chaque fois va l'aider et va avancer. C'est elle qui met l'action en avant. Le seul truc où ça échoue, c'est qu'il y a un moment où elle a le rôle de princesse en détresse, mais bon, je pense qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas leur en demander beaucoup trop. Il y a un dernier truc qui est drôle, c'est qu'il y a un moment où ils arrivent à battre les monstres, ils sortent de la maison, et le personnage principal, qui est joué par Desmond, en fait, il a une chemise bleue, et il tient dans sa main un fusil à double canon, et un plan où il est de dos, et ce plan, ça m'a rappelé Evil Dead, parce que Ash, il a aussi une chemise bleue avec son double canon. Mais c'était très cool de revoir, et c'est un film qui se permet même d'avoir une scène post-générique.
Alors, on rappelle donc que c'est ce détour mortel de Rob Schmitt est disponible chez ESC, et je suis d'accord, les scènes dans les arbres, c'est une super idée de cinéma. J'avais jamais vu ça avant dans un film d'horreur, ni dans un film tout court d'ailleurs, à part peut-être un peu dans Rambo. Et puis Elisa Dushku, elle en voit parce qu'elle est crédible en fait. Elle est athlétique, donc du coup, elle en voit quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un chouette film. Voilà, on vous le conseille. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique.